Bon. Merci beaucoup. Je pense qu'on a plein de choses à discuter et je pense que particulièrement Sven va réagir sur plein de choses puisque Sven est généticien. Donc je pense qu'il est, voilà, plus que moi, il est mieux placé pour peut-être revenir sur les points vraiment liés à la question biologique, génétique. Mais je voulais simplement dire avant, je voulais dire que nous aussi on est constructivistes et que ça n'empêche pas que, justement, pour revenir sur ces paradoxes, ces oppositions, que la diversité humaine est structurée du point de vue génétique. Et je pense que peut-être tu pourras parler de vraiment en biologie, enfin pour nous, la question vraiment de le nom de race, qu'est-ce que ça signifie, est-ce que voilà, pourquoi on l'utilise ou pas, et peut-être beaucoup la question du phénotype parce qu'il en a été énormément en question. Je pensais à ça et je voulais juste citer une phrase avec laquelle je suis tellement d'accord et je pense que vous partagerez mon avis, qui est dans un article écrit par une anthropologue qui s'appelle Kamala Visvesvaran. C'est un article qui date de 1998, qui s'intitule « Race and the Culture of Anthropology ». Et dans cet article, elle fait, en fait, elle refait l'histoire... regarde l'histoire de Franz Boas et de l'évacuation de la race au profit de la culture par Franz Boas et par ses disciples, hein, Ruth Benedict, on en a parlé, etc. Elle regarde à nouveau cette histoire et elle montre comment, en fait, à partir de ce moment-là, on a confié la race à la biologie. Elle reproche un peu à Boas et à ses disciples de finalement de ne pas s'être attelé à la race du point de vue vraiment de l'anthropologie culturelle, sociale et culturelle, d'avoir confié ça à la biologie en disant la race existe, c'est pas ça qui est important, ce qui est important c'est ce qui est appris et non pas transmis héréditairement, etc. Et je pense que ici c'est ce qu'on fait, je pense que vraiment c'est ce qu'on fait, c'est que du point de vue des sciences humaines et sociales on prend à bras-le-corps à nouveau cette question qui concerne les sciences humaines et sociales, évidemment, énormément. Et donc, elle dit quelque chose, cette phrase, pardon, avec laquelle je suis entièrement d'accord, elle dit « Les races n'ont aucune signification biologique en dehors de l'importance sociale qu'on accorde à l'explication biologique elle-même. » Parce qu'évidemment, le fait d'accorder dans nos sociétés autant d'importance à la génétique, à la génomique, à la biologie, pour cette question-là, elle est purement située, ethnocentrée, voilà. Et faut pas l'oublier, voilà. Et voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre vite avant Oui. Que je pense aussi que ce qu'il faudrait qu'on aborde, c'est ce qui se passe après Léventine, vraiment après le travail de Léventine, donc pour dire voilà, on est autant différent que n'importe qui au sein de notre population que quelqu'un à l'autre bout du monde. On l'a dit, hein, c'est pas vrai, il y a ces fameux 6%, etc. Ces 6%, c'est pas rien du tout. Ça concerne des choses qui ont un rapport avec le phénotype, avec l'apparence, avec des traits, toutes sortes de traits, mais ça concerne aussi toute une diversité génétique qui n'a rien à voir avec ça, mais n'empêche qu'à partir de là, on peut catégoriser les gens, on peut faire plein de choses, et c'est ce qu'on fait. Et surtout revenir sur les avancées de la génomique ces deux dernières années, parce que ces deux dernières années, vraiment, on est passé à une conception de la diversité humaine généalogique qui est liée donc aux populations, aux groupes humains, etc., à vraiment des questions vraiment de type complètement individuel, comme si chacun était une race tout seul à lui-même, finalement. Et ça, c'est le paradoxe de la génomique, parce que ça découle d'études qui sont faites à partir de groupes humains pour finalement arriver à des choses qui sont très, très personnelles, très individuelles. Et du coup, un petit peu comme le titre du festival auquel tu as participé, L'histoire à venir, je pense qu'il faut qu'on parle de ça, qu'il faut qu'on parle aussi de ce qui nous... voilà, on en est là maintenant. On a confié ça à la biologie, on a pensé qu'on pouvait s'appuyer sur la biologie pour effacer cette notion de race. C'est pas du tout le cas, et en plus on va beaucoup beaucoup plus loin, et je pense que Sven il peut aussi illustrer beaucoup tout ça.
Je voudrais juste dire en préambule, parce qu'on a parlé de plusieurs fois de cette inscription du social dans le biologique, et il y a un article qui est de ce point de vue-là qui est dans cette hyper actualité, où une étude épigénétique analyse les loci chez un groupe de femmes et corrèle leur expérience du racisme, de l'adversité, de l'expérience raciste à une modification épigénétique. Donc on regarde quels sont les gènes qui sont méthylés ou déméthylés en réponse à l'expérience raciste. Donc là, c'est une expérience. On est tout à fait dans des approches génomiques, et c'est la génomique qui interroge l'inscription de l'expérience raciste dans le corps, quoi. C'est-à-dire dans le corps, dans l'ADN, quoi. C'est juste comme ça en préambule pour. Si, mais je veux. Mais justement. Il y a deux points que je voudrais faire qui sont liés, parce que de nouveau le mot clé qui a été posé dès le début, c'est la notion de phénotype. Et là, il y a quelque chose que même, je pense, beaucoup de généticiens ont perdu de vue, c'est-à-dire le texte qui fonde ce couple essentiel du phénotype et du génotype. C'est un article qui a été publié en 1911 par Wilhelm Johansen qui introduit ce couple-là. Et ce qu'il faut voir, c'est que ce texte est comme un texte fondateur de la génétique au sens mendélienne. C'est-à-dire que c'est un texte qui vise à s'opposer à une génétique qui serait quantitative, qui s'intéresse au phénotype. Et il faut regarder comment il pose ce mot. Donc il le dérive de l'allemand, il le dérive de Erscheinungstyp, donc c'est Erscheinung en allemand, c'est une apparition. Et ce qu'il faut voir dans ce texte-là, c'est la critique qui est faite du phénotype, c'est-à-dire que Johansen en appelle à regarder du côté du génotype. Et il dit, le phénotype, c'est une apparence. Et j'ai juste une phrase qui est extraite de ce... Donc, le phénotype est présenté comme une tromperie, en fait. Et l'étymologie allemande traduit tout à fait ça, quoi. Et donc, le phénotype est une apparence de nature superficielle qui peut être trompeuse. C'est seulement après d'autres analyses que l'on décidera si on est en présence d'un ou plusieurs types biologiques différents. C'est juste un extrait, mais l'ensemble du papier pose cette distinction. Et le point que je voudrais faire, c'est que ce qui m'apparaît très clair là-dedans, c'est que le phénotype, dans ce couple phénotype-génotype, le phénotype, c'est le terme qui est sensible, subjectif, arbitraire et orienté. Dans cette relation, c'est ce terme-là qui contient la subjectivité. C'est le phénotype, c'est ce qui apparaît à l'observateur. Il y a une dimension phénoménologique dans le phénotype. Et pour moi, très clairement, c'est dans le couple phénotype-génotype, le racisme se situe sur le versant du phénotype. Et c'est un des points que je voudrais faire, et qui va sur le second, et qui a à voir, je pense, avec est-ce que tu as très bien montré qu'il n'y a pas de rupture épistémologique, et je me demande si la nature, la rupture, on a toujours envie de la voir là tout de suite sous nos yeux, mais est-ce qu'elle ne se produit pas maintenant avec une différence qui est dans les toutes dernières années et qui est une différence, c'est une rupture quantitative, c'est-à-dire que les principes, il faut opposer les termes génétique et génomique, mais on séquence de l'ADN depuis presque 50 ans, mais dans les toutes dernières années, il y a une rupture technique quantitative qui est majeure et qui fait que la quantité et l'exhaustivité des données qui sont collectées a fait un saut quantitatif totalement majeur. C'est-à-dire que c'est tout à fait trivial, il n'y a pas de rupture théorique, on ne change pas de paradigme scientifique, mais il y a une rupture technique qui fait que les coûts sont réduits c'est d'un facteur 1 million, ce qui coûtait 1 million coûte 1 dollar, et ça conduit à une augmentation telle des quantités de données que là, je pense qu'il y a une rupture. Et c'est ce qu'a dit Sonia, je pense que le paradoxe qui est à mon avis intéressant à souligner, et c'est peut-être là qu'il y a une rupture, c'est que finalement, la génomique a une dimension qui est antigénéalogique. Et je m'explique là-dessus, c'est que la génomique, là vers quoi elle tend? Elle tend vers une exhaustivité et à remettre la question, non pas tellement du point de vue de l'ancestralité et de la transmission des phénotypes, si on dirait de génétique quantitative, mais de remettre l'accent sur l'individu. C'est-à-dire que c'est en ce sens-là que je la considère comme antigénéalogique, parce que peu importe la descendance, on regarde le génome de l'individu, et c'est en ça, paradoxalement, que je considère que la génomique telle qu'elle est faite aujourd'hui, où elle tend vers une exhaustivité, a une dimension antigénéalogique. Une autre façon d'illustrer, à mon avis, cette rupture quantitative, c'est cette question on connaît bien les différences en termes de santé dans les populations afro-américaines, et bien entendu, elles ont été attribuées massivement à des facteurs sociaux. Le fait qu'on ait ces techniques génomiques tellement exhaustives conduit maintenant à des études où on arrive à séquencer dans des très grandes cohortes des tumeurs dans les populations afro-américaines et chez des Américains blancs, et qu'on a beaucoup de mal à évoquer les facteurs purement sociaux, dans la mesure où on se rend compte que les mutations qu'on retrouve dans ces tumeurs ne sont pas les mêmes dans les cohortes afro-américaines et dans le reste de la population. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est la rupture quantitative qui pour part, met le doigt sur la dimension génétique d'un certain nombre de différences de santé qui sont traditionnellement racialisées. Et je voudrais faire un dernier point avec ça. Ah oui. Cette notion du dépassement de la race, c'est-à-dire d'atomisation de la race, où on arrive à dépasser l'aspect généalogique. Claude Olivier a évoqué cette tradition terrible d'associer des différences intellectuelles, de les racialiser. Le fait que la génomique soit accessible et bon marché fait qu'il y a, selon moi, je les appelle des associations de malfaiteurs, des nouvelles associations de malfaiteurs qui se créent. Il y a cet article qui est publié en mars dans Nature Review Genetics, c'est donc quelque chose, c'est une des revues majeures de génétique, qui est signée par des psychologues, par une jeune psychologue anglaise qui s'appelle Elisabeth von Stumm, muet en allemand. Cet article s'appelle The New Genetics of Intelligence. Donc là, on est dans des études de genome-wide association studies où on associe un génotype à des capacités intellectuelles. En passant par le biais, il y a une astuce statistique qui passe par le biais de educational achievement, c'est-à-dire qu'on a des énormes cohortes de centaines de milliers de personnes dont on a les données génomiques et le nombre d'années d'études qu'ils ont fait. Et à partir de ça, on dérive ce qu'ils appellent un score, un GPS, qui était un score polygénique qui vous donne votre constitution génétique en termes d'intelligence. Je lis juste la dernière phrase de cet article, une des phrases qui... Parce qu'on a parlé de génomique, de médecine génomique. Une des applications de ce GPS, je dis juste une phrase toute courte. A precision education based on GPS could be used to customize education analogous to precision medicine. Donc là, à mon avis, on est dans une situation, on est dans un nouveau paradigme biopolitique où on est au niveau... Il n'y a pas de race ici. On parle d'un score, mais qui est apposé sur l'individu. Ce n'est plus la question de l'ancestralité. C'est pour ça que je pense que peut-être il y a quelque chose... Encore une fois, on a toujours envie de voir la rupture se passer maintenant. Mais peut-être cette différence quantitative fait que quelque chose de nouveau est en train de se passer sur la base de ces études de Genome-Wide Association Studies, parce que les cohortes sont énormes et que c'est tout à fait récent. C'est-à-dire, même dans la presse générale, on sait depuis les années 80 cette espèce de rengaine de dire c'est le gène de ceci, le gène de cela. Et la plupart de ces études ont été invalidées parce qu'elles n'avaient pas la puissance statistique. Maintenant, on est capable d'associer des traits complexes qui sont déterminés par des centaines, voire des milliers de gènes. On est capable de les associer à des marqueurs, à des SNP. On ne parle pas des gènes, on se fout de la causalité. Tout ce qu'on veut, c'est... On veut juste des marqueurs. Personne ne cherche les gènes. On veut un score génétique. On veut étiqueter les individus. Oui, c'est très ça c'est du travail. Voilà, juste pour dire que c'est un peu comme un mot d'ordre, mais je pense encore une fois que la génomique dans cette forme-là a une dimension antigénéalogique. Elle détache de la question de l'ancestralité et de la roulette méiotique de ce qui va se passer et de quels gamètes vont être transmis. Ça, c'est, on coupe ce lien-là, et c'est en ça qu'elle est antigénéalogique, et qu'on regarde ce qu'il y a là, disons objectivement, dans l'individu en question. Et encore une fois, ça, ce type d'étude, à mon avis, est une indication que le racisme, ou disons une forme de racisme qui à ce moment-là est à un niveau atomisé, se tient du côté du phénotype. C'est quelle question on pose ? Quelle question on pose ? C'est ces études de psychologie génomique seront aussi bonnes ou aussi mauvaises que les tests psychologiques qui sont employés pour poser la question.
On peut rebondir sur les choses, sur les remarques.
C'est vous qui êtes discuté.
Tu commences, d'accord.
Il y avait un micro plus près, mais c'est pas grave. Et c'est effectivement extrêmement important de rappeler la dimension, enfin les infrastructures matérielles sur lesquelles repose ce dont on discute aujourd'hui. Je vais essayer de le faire dans ma présentation, mais il faudrait aussi probablement, encore une fois, objectiver un peu plus précisément les contextes institutionnels qui ne sont pas nécessairement les mêmes selon qu'on regarde tel ou tel aspect du programme dont vous avez parlé, parce qu'ils contraignent en quelque sorte l'expression des discours. Il y a malgré tout probablement un phénomène assez général. Vous parliez de dissociation entre la génomique et la recherche généalogique, etc. Je me demande si en fait on n'est pas entrer dans un univers qui est contraint par une forme de double contrainte, de double bind en quelque sorte. Il y a d'une part une individualisation, ou en tout cas recherche de la différence au niveau individuel, et tout un tas de ces dispositifs dont on a parlé, plus exactement des registres d'usage de ces dispositifs renvoient à ça, la pharmacogénomie, enfin la promesse de médecine personnalisée, etc., etc. D'accord, mais il y a quand même aussi la difficulté de se contenter de la prise en compte de cette variation et la difficulté justement pour les chercheurs qui doivent publier des articles d'en rendre compte. Et c'est là qu'on voit apparaître les catégories, qu'on voit revenir les catégories, que la question se pose de savoir quelles sont les catégories pertinentes pour essayer d'organiser dans un discours minimalement construit ces variations. D'où le retour à certains moments de la catégorie de race, en particulier lorsqu'elle est prédisposée en quelque sorte, lorsqu'elle est déjà... Et je pense que si on analysait ça en termes de double contrainte comme ça, de double bind, on arriverait, je pense, à prendre en compte une bonne partie de ce phénomène. Alors, deuxième point de mon commentaire très bref, qui renvoie plus à l'intervention cette fois-ci d'Olivier, puisqu'il a trait à la question de la chronologie. Tu as dit, et c'est quelque chose que je partage absolument, que véritablement s'il fallait chercher des jalons, et on a bel et bien besoin à certains moments, ne serait-ce que pour réfléchir minimalement, et le point d'inflexion serait plus à chercher à la fin des années 70, ou en tout cas au cours des années 70, j'aurais tendance à penser dans la deuxième partie des années 70, plutôt que certainement au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. L'arrêt de la publication du Que sais-je de Valois en 1976, voilà. Et alors on peut... Voilà, exactement. Je pars de ça parce que c'est... pourrait apparaître anecdotique, c'est-à-dire qu'effectivement on pourrait penser que de toute manière Valois déjà est bien âgé à ce moment-là, le Que sais-je s'est bien vendu, qu'il est peut-être temps de sortir du marché. En réalité, si on met en regard cette chose minimale et d'autres, bon, c'est tout à fait important. Je pense qu'on gagnerait d'ailleurs ici à analyser comparativement la chronologie du débat sur le racisme scientifique et celui de l'eugénisme. Non pas qu'on puisse rabattre l'un sur l'autre. Le génisme n'est pas un épiphénomène du racisme scientifique, pas du tout. Mais on remarque véritablement une concomitance les chronologies sont véritablement très très parfaitement superposables pratiquement. Bon, et je pense que l'un des c'est pour ça que j'y insistais dans ma présentation, l'un des éléments à prendre en compte, c'est le rôle de ces scientifiques radicaux. Il n'y a pas d'ailleurs nécessairement uniquement les grands noms de l'antiracisme, etc., mais d'aller un peu plus avant, enfin de plus loin dans l'analyse des débats à l'intérieur des champs ou des sous-champs scientifiques à l'époque. Olivier a dit très justement, me semble-t-il, qu'à partir des catégories des acteurs, on prend des risques assez considérables concernant l'analyse que l'on veut développer. Il n'en reste pas moins, et je pense qu'il sera d'accord avec moi, que la dimension compréhensive, c'est au sens weberien, c'est-à-dire l'analyse des catégories des acteurs eux-mêmes est un moment important de ces réflexions, de ces analyses. Et non seulement des catégories au sens strict, des schèmes, des antiracistes scientifiques, mais je pense qu'il faut aussi prendre en compte leur philosophie, la plupart du temps implicite d'ailleurs, de l'histoire, la manière dont ils envisageaient l'évolution. C'est pour ça que j'y ai un peu insisté, y compris en recourant un peu à l'ironie, qui n'était pas dans mon esprit, qui ne se voulait pas du tout sarcastique, la manière dont on a tiré en quelque sorte des flèches du temps, parce que c'est aussi à voir avec la position dans laquelle on se trouve aujourd'hui dans les sciences sociales, de se sentir en quelque sorte dans une position défensive et comme si on avait assisté à une espèce d'inversion en quelque sorte de cette flèche du temps. Bon, ça c'est un deuxième point. Le troisième point très rapide et qui renvoie en partie à la conversation qu'on a eue avec Sven à l'instant, a trait à ce qui est en gros le substrat, l'objet de la variation mesurée par les scientifiques. Olivier a donné rappelé cette définition de la race de la population, pardon, lapsus, par William Boyd en 1950, centré autour de la question de la fréquence génétique, Et expliquant à juste titre qu'on n'avait pas nécessairement beaucoup bougé depuis. On a bougé en tout cas sur un point qu'on a déjà évoqué, qui est le glissement de fréquence génétique à fréquence, un certain nombre de marqueurs en quelque sorte, qui n'ont pas nécessairement d'implication génétique au sens fort du terme. Et ça, c'est tout à fait fondamental, parce que ça affecte justement les modalités de catégorisation, la capacité à faire sens à partir de la mesure d'une variation dans une population, quelle qu'elle soit. Et je pense que ça fait partie des points à creuser aujourd'hui et probablement dans les mois, les années à venir.
Je vais prendre celui-là. Ouais, je voulais rebondir sur quelques éléments de ce que tu as dit, Sven. Le premier sur cette idée sur laquelle le racisme logerait du côté du phénotype. Je pense que c'est vraiment une illusion dont il faut se débarrasser. S'il y a une illusion dont il faut se débarrasser, c'est celle-ci. Dans la mesure où les pratiques racistes, et notamment les États racistes, à commencer par le premier d'entre eux, c'est-à-dire, enfin le premier d'entre eux au sens le plus paradigmatique d'entre eux, c'est-à-dire l'État nazi, ne se fondent pas, dans leur définition de la race, centralement sur le phénotype. Et ils se satisfont parfaitement, au contraire, de l'idée. Enfin, non seulement, mais en plus, c'est même dans l'imaginaire raciste, c'est un grand classique. C'est-à-dire que les pires différences sont celles qui sont cachées. Si on pouvait reconnaître si facilement un juif dans la rue, alors il existe des trucs, ce serait fantastique. Mais non, il y en a beaucoup qui se cachent, et c'est au contraire là que le savoir généalogique est fourni, notamment par tendanciellement les discours de la génétique, peut être utile. Donc je pense qu'il faut se méfier de ça, d'autant plus qu'en réalité, l'histoire même de tous les savoirs sur les races humaines depuis la fin du XVIIIe siècle a consisté à sans cesse argumenter sur le fait que le phénotype n'était pas fiable. C'est très classique, je vais prendre juste le cas de Kant, puisqu'il est une illustration parfaite de ça. Kant est celui qui va dire le marqueur qui sert à identifier la race, c'est-à-dire le seul marqueur infailliblement héréditaire, puisque c'est ça que ça veut dire concrètement, c'est la couleur. Bon, au moment où il dit ça, la plupart des anthropologues sont en train de dire « mais non, la couleur est absolument pas fiable. Ce qu'il faut tracer, c'est les formes du squelette, les formes du crâne, etc. » Et puis, à partir d'un certain moment, on dit « non, pas du tout. Ça, c'est encore pas fiable, c'est déterminé par l'environnement, par tout un ensemble de choses comme ça. » Non, ce qui compte vraiment, là où on arrive à une définition scientifique de la race, et attention, ça veut dire aussi qui permet de mettre en place des dispositifs politiques, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile à repérer et qui loge beaucoup plus du côté des gènes, etc. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je ne suis pas absolument convaincu de l'idée selon laquelle il faut faire une telle distinction entre racisme scientifique et eugénisme, surtout quand tu sais qu'une fois de plus, la définition même de l'eugénisme par Galton, c'est un dispositif qui vise à l'amélioration de la race en éliminant un certain nombre de...
Si ce n'est qu'à rabattre l'un sur l'autre, on oublie que un certain nombre de mouvements eugénistes...
N'était pas raciste au sens où il ne mettait pas en avant un certain...
Oui, c'est quelque chose à prendre en compte.
C'est vrai, mais en même temps, il visait bien... Il visait bien un certain nombre de populations qui menaçaient la qualité de la race.
Donc, qui sont construites sur qui sont parfois construites sur une base de classe sociale. C'est ça qui est
tout à fait. Mais après, là, on rentrait dans une question sur la définition même de ce qu'on entend par racisme. Je pense que moi, personnellement, il y a un danger à se figurer que de prendre simplement pour évident que le racisme fonctionne avant tout et massivement au phénotype. C'est vrai d'un certain type de racisme, mais je pense que, en fait, l'un des grands dangers derrière, c'est qu'on se rend pas compte qu'en faisant ça, on épouse tout un discours. On croit critiquer un certain nombre de discours racistes en disant la couleur est invalidée et elle n'est pas pertinente. Typiquement, le cas, le truc dont on parlait avec Magali tout à l'heure, ce superbe article du National Geographic il y a peu de temps qui dit la couleur n'est pas la race. D'accord ? Et donc la race, c'est autre chose. La race, effectivement, c'est dans la génétique qu'il faut aller la chercher. C'est explicitement comme ça que c'est tourné. Et il faut veiller, à mon avis, à faire attention. Alors c'est là où une histoire compliquée de qu'est-ce que recouvre le concept de race et de toutes ces variations permet justement de nuancer des oppositions comme celle-là. Et on voit bien que toute la stratégie des généticiens des populations, effectivement, va être de dire nous, on a une définition qui est objective de la race, qui épouse exactement le discours qui consiste à dire
dire, il faut, le phénotype n'est pas pertinent, c'est le génotype qui est pertinent, d'accord ? Mais c'est le génotype qui est pertinent au sens aussi où il détermine tout un ensemble de capacités.
Il n'y a pas de corrélation, enfin,
il n'y a pas nécessairement une coïncidence
entre race
et couleur, par exemple. Voilà, exactement.
Apparence.
Couleur ou autre chose.
Que c'est la race.
Mais moi, bon là, il faut revenir sur l'histoire.
Vous lui demandez à lui.
Il faut revenir sur l'histoire du concept, me semble-t-il. Mais alors là, on rentre.
Comment on peut le définir alors?
Je pense personnellement que s'il y a un élément minimal de définition, mais après on pourra. Enfin bon, là, on rentre vraiment sur des questions longues au niveau de l'histoire. Donc, s'il y a un élément minimal de définition, il loge beaucoup plus dans la transmission généalogique d'un certain nombre de caractères. Dans la plupart des cas. Qui sont ceux où on mobilise la notion de race pendant très longtemps, c'est avant tout la transmission généalogique d'un certain nombre de caractères héréditaires qui définit la race. Et c'est ce qui d'ailleurs explique la multiplicité des usages de race pendant très longtemps, et alors vraiment pendant très longtemps. Ce qui fait d'ailleurs, à mon avis...
La race au sens très large.
Ah ben bien sûr, exactement. Mais sauf que c'est pas un sens focalien, c'est le sens. Moi, je m'intéresse peu au sens focalien. Par contre, je m'intéresse beaucoup aux usages. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ce qui m'intéresse, ce sont les usages. Et derrière ça, la question de savoir effectivement sous quel mode la couleur devient un marqueur racial. Il y a plein de modes différents sur lesquels elle devient couleur raciale. D'ailleurs, on pourra en discuter longuement, qui ne sont pas les mêmes. Donc, il faut comprendre derrière ça que ce qui consisterait à se débarrasser de la logique phénotypique est un vieux principe classique qui ne fait pas disparaître la notion de race, et d'ailleurs c'est ce qu'on voit dans tout un ensemble de cas. Et c'est là où effectivement devient plus intéressant ce que tu disais, c'est-à-dire l'idée selon laquelle si on se débarrasse de la dimension généalogique. Alors la question est-ce que c'est le cas ? Et là, à mon avis, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ce que tu disais. Il y a une première chose, c'est que mettons que ce soit vrai du côté de la génomique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on la voit se reconstituer du côté de l'épigénétique. Puisque finalement, ce que l'épigénétique va dire, c'est qu'il y a un certain nombre d'altérations qui ensuite se transmettent héréditairement, comme ça. Bon, avec tous les dangers que ça peut poser de reprendre de manière acritique ce type de discours. Alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais à mon avis, ça pose tout un ensemble de questions qui, en plus, sont liées à une fascination actuelle de tout un ensemble de segments des sciences sociales, en se disant, ah là, enfin, on tient quelque chose qui est... Alors, on pourrait y revenir scientifiquement quand même beaucoup pour l'instant de l'ordre de choses pas très très solides, mais mettons ça de côté. Est-ce que sur le côté génomique, ce que tu décris est si juste ? Je me suis interrogé dans ce que tu disais, parce que tu évoques le fait qu'il y a une rupture au niveau quantitatif. Ça, il n'y a pas de doute. C'est pas la première. Les ruptures au niveau quantitatif d'accumulation des données, il y en a eu dans l'histoire un très grand nombre. Il y a eu une rupture quantitative d'accumulation des données à la fin du XVIIe siècle qui a impliqué la mise en place d'un dispositif de catégorisation, de classification en histoire naturelle, par exemple, qui a été bien étudié depuis. Bon. Il y a, par exemple, au niveau des groupes sanguins, c'est clairement l'augmentation d'informations quantitatives qui a fragilisé très fortement le travail de l'hémotypologie ou des choses comme ça, en manifestant que c'était beaucoup plus complexe. Très bien. Est-ce que la rupture quantitative suffit pour induire une rupture conceptuelle et épistémologique ? C'est là où, à mon avis, la question se pose. C'est-à-dire qu'on peut être dans une situation qui me semble être un peu la situation actuelle, où la rupture quantitative des informations n'est pas corrélé nécessairement avec l'élaboration de nouveaux concepts et de nouvelles catégories qui permettraient de la prendre en compte. Donc on est dans un moment qui est intéressant de ce point de vue-là, parce que c'est un moment de tension. On peut avoir la version optimiste, un peu celle que tu défendais, qui est finalement aussi celle qu'on retrouverait chez Hacking et chez tout l'ensemble d'autres personnes, sur lesquelles on va avoir une disparition de tout un ensemble de catégories et de langages d'autrefois, et donc de catégories aussi sociopolitiques, puisque derrière il y a vraiment cette question-là, de manière de se subjectiver au nom d'une transformation liée d'abord à l'augmentation des données quantitatives. On peut avoir une vision plus pessimiste, qui consiste à dire que ça n'est pas nécessairement évident, c'est-à-dire que on risque de voir se réactiver des vieilles catégories pour analyser les processus ce que tu décris. Et donc, par exemple, l'exemple que tu donnes sur les problèmes d'ajustement des dispositifs éducatifs aux variations analysées en termes de la génomique. D'un côté, c'est en fait une vieille lune qui, pour un historien de la phrénologie, c'était le fantasme de la phrénologie au début du 19e siècle. D'ailleurs, raisonnait à l'échelle individuelle, des capacités individuelles, plus d'ailleurs que des capacités raciales, hein, essayer d'ajuster les dispositifs éducatifs à ces différences comme ça. C'est possible qu'on puisse aller dans le sens de cette individualisation, mais il y a tout un ensemble d'autres gens qui vont pousser vers l'argument selon lequel derrière cette individualisation, on peut aussi identifier des catégories plus transversales. Et là, pour le coup, je n'ai pas une position tranchée, mais je ne suis pas absolument convaincu qu'on puisse tirer si rapidement aujourd'hui un argument de rupture comme ça. Je pense que ça reste à voir. En tout cas, il n'y a pas mécaniquement, pour le dire clairement, on ne passe pas mécaniquement d'une rupture quantitative à une rupture au niveau conceptuel. Et notamment quand derrière les concepts, il y a des catégories sociopolitiques qui sont à l'œuvre dans des contextes sociopolitiques différents où il y a des mouvements d'identification qui vivent parfois sur des catégories antérieures et qui cherchent à les implémenter ou des choses comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Je serais plus prudent en tout cas là-dessus.
Peut-être, je pense pas que je me mets trop du côté optimiste, probablement ce que j'ai dit n'avait pas le niveau de complexité suffisant. Je voulais juste, parce qu'il était presque nouveau pour moi, faire sortir ce paradoxe de ce préfixe de gène là, qu'il y a une dimension. Alors bien sûr, il faut tenir compte des aspects dialectiques, de ce qui va, des réactions, etc. Mais que au moins que peut-être il y a une dimension qui est antigénéalogique là-dedans me paraissait intéressant. Si je reviens sur le point du phénotype et du génotype, la position de Johansen, elle est probablement idéalisée, c'est-à-dire c'est un génotype idéalisé. Ce que je veux dire par là, c'est que tu dis que c'est encore pire, le caractère caché est encore pire que celui qui est apparent, etc. Ce que je veux dire, c'est que dans une conception idéalisée du génotype, il y a plus d'axiologie dans le génotype, c'est-à-dire que de ce point de vue-là, alors peut-être c'est trop positiviste, mais le génotype disons complet, exhaustif, il est de l'ordre de la monstration. Je veux dire, si la base qui est dans cette position, c'est celle-là, je veux dire, au moins dans un cadre où on garde un cadre positiviste, même léger, quoi. Si tu veux, dans cette position-là, ça reviendrait à dire que la prise en compte du génotype comme étant la vraie chose héréditaire qui cache les tares qui sont pas évidentes et qui sortent pourtant sont là, c'est-à-dire cette perspective du génotype racial, selon moi. C'est pas du génotype au sens de Johansen. Il a un contenu axiologique. Il est subjectivé d'entrée, quoi.
Il est subjectivé d'entrée. Pourquoi ?
Il y a des valeurs associées.
Oui, il y a des valeurs.
Mais celui de Johansen, il y a forcément des valeurs associées.
Mais c'est de ça dont il est question.
Oui. Non, mais non.
Non, c'est-à-dire, si tu veux, d'un point de vue, disons, biologique, ou disons dans la synthèse moderne, la seule axiologie qui y a, c'est le fitness. Et il n'a pas de... Et de nouveau, on peut axiologiser le fitness, mais sinon, le fitness, c'est la propension à avoir des descendants qui sont eux-mêmes capables de se reproduire.
Il faut dire à quel point c'est important dans la génétique.
Bah, non, en tout cas, non. De passer leur...
C'est ça le fondement de l'hérédité darwinienne, quoi, de la sélection darwinienne, c'est que ce qui compte, c'est le fitness.
On va dire, si on
facilite effectivement après la, la transmission. Mais l'avantage, justement, il est nécessairement déjà axe, je le disais. C'est très difficile d'envisager.
Oui, de l'envisager sur un mode neutre, à la différence de...
Face au feu. Si, on peut l'envisager dans un cadre neutre, à l'intérieur du paradigme de la synthèse moderne.
Et ça correspond à des usages vraiment très très limités, dans des réflexions extrêmement théoriques. Oui. L'acception neutralisée du fitness.
Dans la plupart
des registres d'usage,
mais c'est
que
pour ça.
Est fit, c'est quand même plutôt positif.
Non, mais c'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça que je pense que peut-être le génotype est déjà et toujours subjectivé,
mais c'est un peu le sens d'ailleurs de ce qu'aujourd'hui tu le décrirais à travers tout un ensemble de points sur le génome, ça ne parle à personne, tu vois. Il y a tout un investissement ensuite qui est fait, qui est le subjectif,
C'est pour ça que je parlais de double bind, c'est qu'il y a une double contrainte entre, d'une part, cette tendance à aller vers l'analyse de plus en plus individualisée et la nécessité de faire sens, mais alors de faire sens de quelque chose qui est de plus en plus fugace, parce qu'on a parlé de cette évolution cette inquiétude vis-à-vis des apparences, en quelque sorte, qui amenait à choisir des marqueurs, le terme est impropre pour la plupart des recherches dans l'histoire de la génétique, en tout cas il est très contemporain, mais disons que des marqueurs qui permettent d'analyser cette différence à un niveau véritablement fondamental, quoi, en quelque sorte. Et on glisse du phénotype vers, par exemple, les groupes sanguins, etc. On en arrive à la gène, plus ou moins facile à objectiver d'ailleurs, et on en est à des éléments qui, en fait, en génomique, n'ont pas nécessairement d'expression génétique. C'est marqueur. Donc la question même... Pardon ?
Ils ont une histoire.
Ils sont censés être les dépositaires d'une histoire, d'une certaine manière, mais quel sens ils ont en termes, justement, physiologiques c'est très, très problématique. C'est très variable selon les cas d'espèces qui sont discutés. Et ça, il y a peut-être, malgré tout, une évolution récente sous ce rapport qui serait analysée de manière plus approfondie que ce qu'on a fait jusqu'ici.
Ah oui, c'est vrai.
Merci. Olivier, je me demandais si, là, quand tu faisais, tu postules sur le fait qu'effectivement, il n'y a pas eu de rupture épistémologique. Vas-y, tiens, pas. Et tu démontres de quelle façon il n'y a pas eu cette rupture épistémologique, mais tu l'as fait du point de vue, le point de vue des sciences. Effectivement, tu évoques le fait qu'il y a toujours eu des recherches qui montrent l'interprétation du biologique et du social et culturel, mais peut-être qu'il faudrait peut-être pas assumer le fait que, enfin, aller aussi vite et dire que cette interprétation du biologique et du socio-culturel, elle a toujours été évidente du point de vue, en tout cas, des sciences sociales. Et la rupture épistémologique, elle existe au sein des sciences sociales. D'ailleurs, on s'est tous présentés comme constructiviste, donc je veux dire, l'idée du passage du racisme scientifique au racisme culturel, dans le champ des sciences sociales, il est extrêmement structuré. Et lorsque j'évoquais le travail de Peter Wade, on est en anthropologie début des années 2000, et il évoque vraiment cette idée de pourquoi est-ce qu'au sein des sciences sociales, le biologique est presque un anathème. Et donc il revient sur l'idée qu'il faut essayer de repenser qu'est-ce qu'on entend par essence, et il refait un peu l'histoire de l'essence depuis les Grecs, et de montrer que ça n'a pas toujours été du côté du fixe, mais il y a eu toujours la dimension permanence mais aussi changement dans l'histoire de l'essence, de la naturalisation, du biologique. Et donc là, justement, il cite un petit peu les derniers travaux en anthropologie qui mobilisent ces nouveaux savoirs et qui permettent de montrer comment le biologique est lui aussi construit, c'est-à-dire ne pas être le biologique fixe, le social construit, mais que le biologique est lui-même construit, et qu'on peut, à partir de ces nouveaux savoirs, documenter la racialisation, les processus de racialisation des corps, le marquage par l'expérience. Sven, tu as cité le cas de ces recherches récentes en épigénétique. Et effectivement, Sonia, je trouve que c'est très intéressant ce que tu as cité sur l'importance sociale, la question qu'on peut se poser sur l'importance sociale accordée à ces nouvelles recherches biologiques qui sont elles-mêmes situées. Mais ma question, c'est, tu as évoqué le danger de la réappropriation de ces travaux d'épigénétique en sciences sociales. Tu n'as pas voulu expliciter, mais pour moi, ça, voilà. Est-ce que tu pourrais revenir un peu là-dessus?
Ouais, juste une chose avant. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut la nuancer, là encore, cette rupture. Et je ne vais pas mettre en cause le fait qu'il y a, dans l'imaginaire d'ailleurs des sciences sociales, une rupture importante qui est faite. Mais que si tu prends, en tant qu'historien, que tu analyses les choses, je pense qu'il faut la nuancer et nuancer par conséquent un certain nombre de choses qui sont présentées comme des nouveautés. C'est-à-dire que nous, on pense aux grands auteurs, d'accord, qui ont marqué. Mais là, par exemple, la citation que je vous ai faite du texte de Madeleine Bordeaux dans Les Annales. Les Annales sont un journal de base des sciences sociales, de l'histoire en particulier, et il est loin d'être isolé, cet article. Hein. Il est dans toute une continuité de textes sur les liens entre comportement biologique et analyse sociale, qui est un ensemble de dossiers des Annales depuis les années 1950 jusque dans les années 70, articulant aussi la démographie historique. Enfin bref. Donc, et c'est pas le seul exemple qu'on pourrait prendre. Je vais prendre un exemple que peut-être certains d'entre vous connaissent, puisqu'il est dans l'espace Caraïbes. C'est les travaux de Benoît, par exemple. Benoît qui articule des données qui sont des données de la biologie avec tout un ensemble de données des sciences sociales, précisément pour montrer cette question de la construction. Voilà. Donc, et inversement, je le répète, du côté des biologistes, il y en a beaucoup qui ont largement, dès les années 60, voire même avant, prennent en compte la dimension selon laquelle les entités biologiques en question sont construites, y compris par des processus sociaux. D'accord ? Enfin, c'est juste pour nuancer les ruptures contre le discours qu'on retrouve effectivement chez des auteurs, je pense par exemple à Nadia Abouelhaj ou à Catherine Bliss, qui se lancent dans une espèce de grand fantasme dans lequel enfin on atteint une réconciliation entre les sciences sociales et les sciences biologiques à travers ce nouveau paradigme de la race, comme on avait essayé de l'analyser un petit peu. Et je pense que c'est important de dire non, c'est plus compliqué. Alors maintenant, sur l'autre aspect, là encore, là pour le coup, c'est beaucoup d'historiens qui parlent. Moi, l'épigénétique me fait furieusement penser à ce qui est l'un de mes thèmes de recherche principal, qui est la théorie de la dégénérescence au 19e siècle. La ressemblance est tellement frappante qu'elle en est fascinante. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'était que la dégénérescence? Ce sont des altérations qui ont des raisons multiples liées aux milieux divers de vie, en particulier, ou l'alcool, et qui marquent ensuite le matériel héréditaire et qui se transmettent et qui s'accroissent à travers les générations. Bon, bref, je passe tout ça. Ça a eu tout un ensemble d'effets biopolitiques extrêmement lourds, extrêmement graves. Et moi, je me bats toujours sur le fait d'insister que, contrairement à ce qu'on a pris l'habitude de croire, c'est parfois plus quand il y a l'articulation du biologique et du social que des effets biopolitiques négatifs apparaissent. On pourrait revenir dessus, mais c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut se méfier. On a vécu sur le fait que les grands méchants, c'est quand on postule une séparation radicale entre d'un côté ce qui est de l'ordre du statique, qui serait de l'ordre du biologique, et de l'autre côté le social. Mais en réalité, si on travaille d'un point de vue historique, on constate que beaucoup des politiques que par ailleurs on dénonce se sont fondées sur des moments où au contraire on articulait les deux et où on pouvait penser qu'à travers le social on pouvait agir sur le biologique et vice versa. C'est une dimension qui à mon avis est très claire dans tout un ensemble de débats autour d'ailleurs de l'eugénisme aussi du 19e siècle, etc. Bon. Donc c'est pour ça que j'invite à la prudence. Et j'invite à la prudence pour une autre raison, c'est que... Alors, il y a deux autres raisons. Il y en a une toute simple, c'est qu'en réalité, beaucoup de gens en sciences sociales s'emparent des travaux de l'épigénétique sans prendre conscience du fait que dans leur domaine, ils sont très profondément contestés. C'est-à-dire que pour l'instant, on en est encore à la... il y a beaucoup d'études qui paraissent, qui sont des études qui, en réalité, ne sont pas très sérieuses du point de vue scientifique et sont contestées par les acteurs du champ. Donc, il faut faire attention de ce point de vue-là à la tendance, à la fascination qu'il y a parfois du côté des gens de sciences sociales, exactement comme d'ailleurs du côté des acteurs politiques. Il y a eu une bulle spéculative de la génomique pendant une période, il y a aussi une bulle spéculative de l'épigénétique actuellement, et j'invite à prendre un peu de la distance par rapport à ça. C'est ça l'un des arguments. Et donc voilà, ça n'est pas nécessairement pour...
contester toute pertinence à ça, c'est pour inviter à la méfiance et à la précaution dans la mobilisation de ce genre d'études. Moi, je n'ai jamais une position radicalement opposée à tel ou tel truc, mais plutôt inviter à peser les risques et les dangers qui sont contenus dans un certain nombre de choses. Là, par exemple, à mon avis, il faut être vraiment beaucoup plus précautionneux. C'est très frappant, par exemple, de voir, je me souviens pour avoir eu un débat avec tout un ensemble de personnes dans un colloque sur justement race, génomique, avec que des Américains. Les Américains étaient là en train de se dire, mais comment est-ce qu'on va faire pour se débarrasser de la race en génomique ? Ce qui est amusant, puisque nous, pendant longtemps, on était dans la position presque inverse. Ah bon, elle existe. Et donc, ils essayaient de s'en débarrasser. Mais par contre, il la reprenait pour l'épigénétique. C'est-à-dire que quand elle était on s'en débarrassait du côté de la génomique, elle revenait par la porte de l'épigénétique. Et ça, c'était quand même assez frappant. C'est ce besoin, toujours, de retrouver dans une certaine forme de discours biologique un moyen de la réinvestir. Donc je pense qu'on peut aussi envisager de penser d'autres manières d'analyser les choses que de chercher nécessairement à identifier les altérations héréditaires sur l'épigénome qui traduisent les effets.
Et en même temps, c'est dans ce champ-là où on remet le plus en cause la dimension fixe et l'influence de l'environnement, de la transformation, l'idée de processus.
Bien sûr, mais moi, personnellement, comme je ne crois pas que le bien loge nécessairement du côté de l'affirmation des différences dynamiques, etc., et que le mal loge du côté de l'affirmation des différences fixes, et que j'ai passé à peu près un livre entier à prouver que les choses sont plus compliquées dans l'histoire de la notion de race et du racisme, je suis très prudent là-dessus, précisément.
Sven, vous avez quelque chose sur l'épigénétique, parce que là, c'est...
Juste, très rapidement. Il y a toujours des dangers à lier en quelque sorte l'élargissement, en l'occurrence du champ d'intervention de sa propre discipline à des savoirs qui sont produits très en dehors et très loin de la discipline en question. Et il y a des interrogations à avoir, notamment sur la question de la pérennité de la transmission héréditaire des modifications épigénomiques. Bon, et par ailleurs, il y a un biais général, mais ça, on pourrait reprendre tout le débat qu'on a eu ce matin à l'aune de ce biais, qui est que, pour des raisons assez évidentes, les chercheurs en sciences sociales, entendus au sens large, sont intéressés essentiellement lorsqu'il est question de biologie, et bien de biologie humaine. Bon. Or, si on s'intéresse à la génétique des populations qui ne sont pas des populations humaines et parfois même pas animales, ou si on s'intéresse à l'épigénétique de la plante, par exemple, on ne retrouve pas nécessairement les mêmes types de raisonnements, les mêmes types de mécanismes dont il est question. Donc il y a comme ça des biais de représentation sur ce qu'est la génétique, sur ce qu'est la génomique, sur ce qu'est l'épigénétique. Pardon de vous.
J'allais dire, sur l'épigénétique, j'allais dire exactement ça. Je pense que tu as tout à fait raison. Il y a un malentendu sur l'émergence de l'épigénétique comme étant enfin la revanche contre la vue génocentrique. C'est une erreur. C'est une erreur. On mise sur le mauvais cheval de ce point de vue-là. Après, je rejoins ce que tu viens de dire. Je pense que autant les études qui sont les plus, qui pèsent le plus lourd dans le débat social sur l'épigénétique, un certain nombre d'entre eux peuvent être attaqués et contestés. Il reste que comme domaine d'étude, l'épigénétique et que sur des organismes modèles, notamment chez les plantes, je veux dire, il y a des... C'est pas parce que des articles à la marge dans des contextes extrêmement polémiques ou disons lourds du point de vue social sont attaqués ou même méthodologiquement critiquables avec un œil disons plus général sur ce qu'on sait sur les mécanismes épigénétiques dans le vivant il doit y avoir quelque chose, juste par un raisonnement qui est tout à fait parcimonique de dire il y a une généralité dans les mécanismes. Quoi.
Je disais ça, je visais les études dont tu parles, je visais pas...
Moi je comprends pas, on n'est pas spécialiste, je ne suis surtout pas, pourquoi c'est le mauvais cheval si il y a des mutations.
Non, il y a des... Alors, les... les modifications épigénétiques, c'est alors, il y aurait une définition qui...
J'ai toujours pas compris ce qu'est... Sonia passe son temps à m'expliquer ce qu'est l'épigénétique, je crois que...
C'est une modification de l'ADN qui ne modifie pas la séquence...
D'accord, ok.
Voilà. Okay. Mais il s'agit de méthylation...
Donc, c'est pas une mutation.
C'est pas une mutation. Ouais, okay. Mais c'est des changements dans la structure de l'ADN, dans la structure chimique de l'ADN ou des protéines qui y sont associées, qui vont changer... l'expression des gènes.
Et pourquoi alors que c'est pas une mutation ?
Parce que la mutation est définie comme un changement de la... Enfin, on peut même pas dire que c'est défini comme ça, parce qu'il y a des mutations, des choses qui pourraient apparaître pour un généticien comme des mutations, et qui en réalité sont des modifications épigénétiques. Mais disons que
on peut imaginer un tronc avec des branches, les branches changent et le tronc ne change pas, quoi, grosso modo.
Si tu veux.
La branche elle-même ne change pas vraiment. Ouais.
Ah, même la branche.
C'est les oiseaux qui viennent
le matériau. Ouais, très bien. Parfait. Et puis le matériau qui la cellulose ne change pas.
Ou alors, disons une métaphore serait un texte qui reste inchangé, mais où un mot est en italique. Ça, ce serait une métaphore possible.
Oui, donc c'est
un film. Et du coup, ça attire l'attention du...
Non, c'est pas nécessairement un film. L'un n'est pas du tout lié à l'autre. Tu peux avoir une mutation qui n'a aucun effet sur le phénotype, par exemple, et inversement, une méthylation qui en a un important. Au contraire. Alors, c'est pas...
Et alors, c'est modifié... Pas nécessairement. Ça peut, mais pas nécessairement.
De mes connaissances en biologie. Ah, mais là, tu es bien tombée, Magali. J'ai mon prof tous les jours avec moi. Tous les jours.
Mais Christine, ce qui est important, et c'est ce qu'a souligné Claude Olivier, c'est que comme ces modifications sont dépendantes de l'environnement, et disons, pour dire les choses simples, d'expérience de vie de tes parents, de tes ascendants, on est tout à fait dans une situation où on va dire ce qu'a bu ton père comme alcool parce qu'il était smicard, c'est imprimé dans tes gènes. Et donc l'espoir de sortir du l'espoir de sortir du génocentrisme, tu vois, de dire je suis plus que mes gènes, tout n'est pas dicté par la séquence de l'ADN, c'est-à-dire cet avènement de l'épigénétique était comme ça, de manière caricaturale, vécu comme une libération, c'est-à-dire ouais, les gènes c'est pas la séquence parce qu'on peut le modifier, mais en fait le serpent se mord la queue, et encore pire d'une certaine façon.
Donc on retrouve l'hérédo-alcoolisme du 19e siècle, en plus
des éléments de modernité.
D'ailleurs, il y a des arguments de politique publique actuellement sur l'alcool qui sont exactement fondés là-dessus et qui ressemblent effectivement aux formules que tu trouvais au début de... Enfin, pendant la Première Guerre mondiale, avec les petits verres font les grandes tares dans les générations à venir. C'est exactement ça. Non simplement, si tu bois, tu vas nuire à ta santé, ni même à celle de ton enfant.
Si tu bois des alcools durs, hein,
oui, bien sûr,
parce que le vin, ça va. Non, mais c'est très important. C'est très important de le rappeler.
Et la bière dans le vin.
Mais par contre, ça va nuire non simplement à l'enfant, mais ensuite, ça va se transformer.
Oui, juste dire que dans tout ce que vous dites, mais tout, bon, c'est vrai que je suis pas très branchée. Magali, merci de faire remarquer, génétique, parce que c'est un langage obscur et qu'à chaque fois, j'y vois les correspondances avec des théories sociales ou des représentations sociales. Là, vous me parlez, vous êtes en train de me décrire Zola. Je vois le roman de Zola contre lequel je m'insurge à chaque fois en me disant Zola, que l'on prenait pour un grand défenseur des classes ouvrières, fait un déterminisme social terrible. Vous êtes en train de me faire un déterminisme génétique terrible, et je me demande jusqu'à quel point, comment, quand on étudie, c'est naïf comme question, mais comment, jusqu'à quel point, quand on est un biologiste ou un généticien, on n'est pas empreint de représentation pour aller chercher des choses que l'on veut trouver et qui sont aussi des produits purement, des produits d'une représentation sociale.
C'est pour ça que je travaille sur la génétique des champignons.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Au contraire, la plupart des généticiens et des biologistes ne s'intéressent pas du tout à ces questions-là.
Et tu fais bien.
C'était même un des attributs de l'excellence génétique dans l'entre-deux-guerres, c'était de ne pas s'intéresser, de ne pas toucher à l'humain.
Mais
l'autre a mais en quoi les et en puis, quoi les biologistes génétiques c'était différent des autres
c'est on a plein de choses tu vois sur le phénotype par exemple c'est tellement ce que tu disais le phénotype n'est pas nécessairement enfin par rapport au racisme phénotype ce que vous répondiez c'est la Wonder Pool aux États-Unis.
Par exemple, enfin,
c'est la Wonder Pool. Et après, il y a cette histoire de race, c'est l'évolution de race telle qu'on entendait dans le langage. Tu dis, c'est pas forcément lié au phénotype. Et à partir de quel moment la race devient race noire et que le racisme devient du racisme anti-noir ? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi sur le phénotype par rapport à l'antisémitisme. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi.
Je le nuançais dans la mesure où on sait quand même que la politique mises en place par les nazis ne se fondent pas là-dessus. Elles se fondent sur la généalogie.
Oui, oui, mais il y a...
Et que par ailleurs, jusqu'au bout, c'était en fait jusqu'à l'hiver 1944-1945, il y a des programmes de recherche qui sont en place, au Kaiser Wilhelm Institute, par exemple. C'est à ça que collabore Mengele depuis Auschwitz, et qui vise à définir enfin la bonne, la véritable, la définition scientifique du juif.
Alors, moi, j'invite à lire, par exemple, l'article très beau de Benoît Massin sur ces questions-là, et qui montrera que la définition de la race caractérisée par le génotype versus les questions autour du phénotype est centrale dans tout un ensemble de travaux de généticiens nazis. Et que malheureusement les choses ne sont pas aussi compliquées simples que ce qu'on présente généralement. Et en fait,
c'est bien sûr, tout à fait, je suis entièrement d'accord.
Cet exemple spécifique, je voudrais juste faire voir le hiatus qu'il y a entre la généalogie et l'aspect maintenant génomique. C'est ce que je veux dire, c'est que quand tu dis ces politiques nazies s'appuient sur la généalogie. La chose sur laquelle elle s'appuie, c'est quelque chose comme de la génomie quantitative. C'est-à-dire, il y a dans les ascendants des gens qui sont des juifs, et que c'est pour ça que ce que je veux dire par là, c'est que si on est dans la modernité génomique, on va avoir. Alors, je dis pas que la catégorisation est tout aussi terrible, mais il y a quelque chose de différent. Entre dire dans ton ancestralité il y a une grand-mère juive qui est identifiée et de faire des mesures d'admixture et de regarder quelle est la proportion de marqueurs de juifs ashkénazes, c'est pas la même chose.
D'une certaine manière, c'est pas la même chose, qui n'empêche pas qu'il y ait des continuités.
Ce que je veux dire par là, c'est que si c'est caricatural.
C'est jamais tout à fait la
mais,
même
mais,
chose.
Mais le certificat d'arianité, il peut être invalidé de manière génomique. Je veux dire, on est dans une logique complètement folle, mais il peut être invalidé d'un point de vue génomique, alors que d'un point de vue généalogique, il a été construit.
Tout à fait, mais il reste qui peut être aussi validé d'un point de vue génomique. D'ailleurs, il y en a certains qui le font.
Et c'est pour ça que je dis que ça se tient du côté du phénotype. C'est-à-dire que tu associes à quelque chose qui a une certaine objectivité, tu associes, tu phénotypises déjà le génotype.
Et par exemple, le cas des études d'admixture serait un bon exemple de ça. Comment est-ce qu'elles fonctionnent, les études d'admixture ? Elles fonctionnent sur le fait qu'à un moment ou à un autre, tu décompose une population en sa structure de population ancestrale, tu définis ces populations ancestrales. La définition de ces populations ancestrales repose sur une multiplicité d'hypothèses qui refondent des catégories, qui sont des catégories qui autrefois étaient présentées comme des catégories raciales. Enfin, c'est pour ça que si tu analyses l'ensemble de l'histoire des techniques d'admixture, tu le vois extrêmement bien. C'est juste qu'on a changé le nom. Mais ce sont les mêmes catégories. Et ça a un effet de renaturalisation, entre guillemets, de ces catégories. Et même si tu sors de l'admixture et que tu vas sur les études d'association tout génome, comme ça, il reste que là encore, tu vas mobiliser ces catégories pour analyser la structure de la population, pour t'assurer qu'il n'y a pas des associations qui sont biaisées par la composition. Donc on y revient d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que je reste méfiant sur le fait qu'il y a une vraie rupture de ce point de vue-là. Mais c'est plutôt parce que c'est les catégories sur lesquelles on raisonne qui n'ont pas été suffisamment remises à plat, déconstruites du début à la fin, de telle sorte à que, en fait, tu les fasses complètement exploser. Moi, je suis pleinement d'accord avec ce que tu dis sur l'orientation. Et on devrait aller plus loin, puisque c'est même pas l'individu qu'il faudrait garder. Il faudrait détruire l'individu aussi. C'est pas individuel.
Je te rappelle que tu es filmé. Hein.
Oui, non, mais c'est vrai. Tu vois, c'est pas à l'échelle de l'individu que beaucoup de ces questions-là se posent. Ça allait, par exemple, à l'échelle de la tumeur pour certaines choses.
Elle n'en aime pas, parce que elle-même n'est pas
homogène. Bien sûr. Et ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait vraiment imaginer quelque chose comme ça. Mais à mon avis, on en est loin. C'est là où il y a, un conflit.
On va peut-être arrêter, tout simplement parce qu'on se dit que c'est passionnant, qu'il faut reprendre absolument tout ça. Oui, il faut reprendre. Je ne vais pas dire les points qu'il faut reprendre, mais il y a des choses extrêmement intéressantes.
Moi, je peux peut-être en donner un, parce que c'est quand même toute la question des usages sociaux, etc., parce que c'est un élément économique. C'est un élément qui manque, en fait, dans ces débats. On a l'impression, effectivement, que c'est que des spécialistes qui se parlent, etc. Et en réalité, j'étais sur le site de MyHeritage, et bon, là, on retrouve des stéréotypes anciens, le blanc, noir, etc. Et en même temps, il y a des choses tout à fait intéressantes autour de l'individuation, donc, qui avait été soulignée par Sonia. Et je pense que toute cette dimension-là, elle est fondamentale, parce que peut-être les espaces de travail, les paradigmes dans lesquels travaillent et les sciences sociales et les sciences du vivant, d'une part, mais également, en fait, l'articulation avec le politique, avec des moments politiques, ça se fait aussi dans les réceptions. Et le marché, les offres du marché, les réponses faites à un besoin d'individuation qui va effectivement au-delà peut-être du généalogique, mais qui s'empare du généalogique, à MyHeritage, c'est ça qu'on a. Et c'est pas ouvrir le débat maintenant, mais c'est pour dire peut-être qu'on peut en garder un petit peu pour cet après-midi.
Voilà, et garder pour, aussi un deuxième point qui est comment on lit quand on lit. C'est plutôt à vous que ça s'adresse, enfin à vous en miroir avec. Comment se fait-il que, enfin, c'est ce que je disais peut-être maladroitement, comment se fait-il que, en même temps, j'ai l'impression que la génétique va nous renvoyer des choses que l'on ne pensait pas, que c'est comme si c'était un matériau inerte, externalisé ou extériorisé, objectivé, et puis qui va nous donner matière à penser, et en même temps, je retrouve toutes les catégories en usage, c'est un petit peu, ça rejoint ce que dit Didier, pour analyser, analyser les résultats de génétique, c'est ta magnifique citation. Donc revoir ça pour essayer d'aller plus loin dans ces lectures sur, et puis oui, cette définition de la race, quoi, qui même génétiquement me pose problème. Quelle est la définition de la race? Est-ce que, voilà. Parce que la population, après tout, oui. Et pourquoi, pourquoi ce terme? Pourquoi pas un autre terme? Pourquoi pas. Voilà, il y a bien une histoire. Il faudrait faire la généalogie du mot race pour. Avant.
Ça a été fait.
Oui, ça a été fait. Ça a été fait par. Bien évidemment, et j'ai. Je pense, bon, elle n'est pas parfaite, hein, mais la généalogie part de la campagne, par exemple, est très bien. Mais voir pourquoi cette généalogie n'est pas plus utilisée par les généticiens, je ne comprends pas. Y compris même dans vos travaux. Enfin, excusez-moi, hein, sans être critique, parce que vous faites de formidables travaux, je ne comprends pas qu'on n'ait pas rencontré à un moment donné... la traite et l'esclavage, et que...
Parce que j'en ai pas parlé là, mais...
Accessoirement, parce que c'est évident que s'il y a eu des ruptures, ou s'il y a eu des...
C'est dommage que vous n'étiez pas là à la journée qu'on a organisée exactement là-dessus.
Voilà, parce que c'est là intervient un moment très important.
Je crois que c'est l'occasion, justement,
voilà,
de croiser un peu.
C'est pas une critique.
Il faut regarder, je pense, pour cet après-midi, parce que...
Et on laissera la parole. Et à la salle, moi je voulais m'excuser aussi.
Malheureusement, j'ai cours, je me permettrai de plaider à nouveau pour la nécessité d'envisager le marché, et donc l'économie, comme une institution. C'est-à-dire qu'en fait, quelque chose qui est régulé et qui fait que certaines choses qui sont. On ne peut pas proposer exactement la même chose à la clientèle selon l'endroit où on opère, comme la découvert à ses dépens 23andMe lorsque la FDA américaine lui a interdit de certains éléments de ses tests génétiques en ligne. Voilà. Désolé.
Merci beaucoup, Luc, pour votre intervention.
Et je vais rester un petit peu, mais malheureusement, à 14h30, il va falloir
que
je...
Excusez-moi, est-ce que vous pouvez redonner le programme, du coup, pour cet après-midi ?
Alors, le programme est un peu...